Donc, il est le fondateur d'une œuvre missionnaire Nation en Marche. Hein, c'est une œuvre qu'on a collaboré ensemble pendant longtemps en Centrafrique. Et il est aussi vice-président de l'Alliance évangélique de ce pays. Il a beaucoup travaillé pour la réconciliation aussi dans les temps difficiles. Mais vraiment, que Dieu le bénisse ce matin.
Merci et que Dieu vous bénisse. C'est une joie d'être avec vous. De savoir aussi qu'il y a des frères qui prient pour nous dans nos difficultés. Et donc c'est un privilège que de pouvoir passer ce moment de communion ensemble. Hier après-midi, notre frère Dan, qui aime bien se promener pour voir, moi je suis quelqu'un qui reste beaucoup à l'intérieur, mais lui je me suis rendu compte qu'il veut marcher. Et donc... Il voulait aller suivre le pas de Roland. Et donc, je les ai accompagnés. Et nous avons marché quelques kilomètres. Et puis, nous étions arrivés quelque part où il y avait beaucoup de chevaux. Et c'était bien de voir tous ces chevaux, tous ces animaux. Et derrière nous, il y avait une dame qui était sur un cheval. Et quand le cheval était arrivé à une dizaine de mètres de nous, le cheval a refusé d'avancer. Malgré tous les ordres qu'on lui intimait, tout et tout, c'est comme si l'ange que Dieu avait envoyé pour barrer la route à l'âne de Balaam se tenait quelque part là. Et le cheval refusait. Et je me suis posé la question, est-ce que parce qu'il n'a pas l'habitude de voir un noir dans le coin? Et donc j'ai posé la question au jeune homme qui accompagne, il dit, est-ce que c'est à cause de moi qu'il fait ça? Il dit, non, il ne sait pas. Mais c'est vrai, le cheval refusait. Et j'ai dit, Rob, tu as beaucoup d'onction, il faut prier. Il y a peut-être un démon quelque part qu'on ne voit pas. Et nous sommes avancés une centaine de mètres. Et après, je regarde derrière le cheval qui était en train de venir. Et j'ai quitté la route pour me mettre un peu dans les herbes. Parce que s'il me revoyait, je ne sais pas ce qui allait se passer. Vous savez, les animaux ont parfois ce genre d'instinct... Et moi, je viens d'un pays où c'est encore la jungle. Il y a beaucoup de chasse et beaucoup d'animaux. Et un jour, il y a un chasseur qui a pris son fusil et qui partait pour chasser. Il avait vraiment prié Dieu parce qu'il voulait manger du gibier. Et quand il arrive dans la brousse, il se rend compte qu'il était en face d'un ours. Je ne sais pas comment cet ours s'est retrouvé dans la forêt africaine. Mais il sait que l'ours, c'est l'animal le plus résistant à la mort. Ouais. Vous mettez un ours et un lion dans une cage, c'est perdu pour le lion. L'ours résiste, même s'il est blessé grièvement, mortellement, mais il ne va pas mourir vite. Et donc c'est l'animal vraiment le plus résistant. Et aussi quand on tire l'ours, il faut savoir où le tirer. Parce que si vous visez sa tête, ça va passer sur son front. Donc cet homme ne savait que faire. Et il est tombé à genoux devant Dieu, il a commencé à prier, « Seigneur, fais que cet ours soit chrétien. » Et quand il finissait de prier, il entendait l'ours aussi qui priait, « Merci Seigneur de m'avoir donné un repas. » C'est vrai, nous sommes dans un monde où parfois nous ne comprenons pas ce qui arrive. Mais bon. Alors nous allons continuer à prier. Ce matin, j'ai juste deux petits versets à partager avec vous. Le premier se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 12. Si vous avez votre Bible, ouvrez cela, sinon je vais le lire pour vous. Jean, le chapitre 12, le verset 24. Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il porte beaucoup de fruits. Et le deuxième passage se trouve dans l'évangile de Luc. Luc, le chapitre 9, le verset 23. Luc 9, verset 3. 23 plutôt. autant pour moi. Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Prions. Seigneur, nous sommes dans la joie d'être en ta présence ce matin. Merci pour la communion fraternelle. Et merci aussi pour tout cet élan que tu nous donnes d'apporter nos frères dans le monde qui traversent diverses circonstances en ta présence, sachant que notre seule arme, c'est la prière. Nous voulons te remercier aussi pour ce temps où nous ouvrons ta parole pour lire, pas juste pour avoir une information, mais Seigneur, que nos cœurs ce matin soient ces pages où tu veux transcrire cette vérité éternelle. Il n'y a que ta parole pour nous transformer et nous rendre semblables à toi. Il n'y a que toi, Seigneur, pour nous donner de pouvoir l'incarner dans ce monde plein de défis, où il y a la haine, le rejet, la stigmatisation et, Seigneur, toute cette balkanisation, même venant des différentes options religieuses, idéologiques et autres. Et nous prions que ce matin, tu nous parles. Saint-Esprit, toi qui es non seulement l'auteur, mais aussi l'interprète des Saintes Écritures, nous accorde-nous de comprendre cet oral que tu veux nous donner. Connecte-nous à ton trône ce matin. Bénis ta parole. Bénis ma soeur, bénis mon frère. Et bénis moi aussi. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Amen. Alors, nous avons juste lu deux versets que nous voulons partager ce matin avec vous. Ça fait presque 2 mois que je suis en Europe pour une tournée de plaidoyer en faveur de l'Église en Centrafrique et du peuple centrafricain. Parce que ça fait bientôt 4 ans que nous traversons des moments très très difficiles. Et la persécution que nous ne nous attendions pas et qui s'est abattue sur l'Église et qui continue. Et donc, faire un plaidoyer pour que les gens de bon cœur voient ce qu'ils peuvent faire pour aider, mais aussi pour que les chrétiens comprennent ce que les médias ne transmettent pas toujours, ce qui se passe afin de bien les aider à prier. Et donc, cette tournée m'a conduit en Allemagne, en France, en Suisse. Et voilà, la semaine prochaine, je vais repartir chez moi. Et je me suis aussi rendu compte, et j'avais prié Dieu avant de venir, que je ne suis pas seulement venu pour parler aux Européens, je veux aussi recevoir. Et je crois que j'ai beaucoup reçu pendant ces 2 mois. Et je prie aussi pour la France, parce que je me suis rendu compte qu'il y a tellement de défis aussi pour la France, aussi pour l'Église, aussi pour les chrétiens. Et c'est vrai qu'on ne peut pas comparer les degrés de nos défis, ce n'est pas les mêmes, nous ne vivons pas dans les mêmes contextes, pas dans les mêmes conditions. Mais ça va aussi me donner de savoir comment prier pour l'Église en France et prier aussi pour vous. Et je voudrais au nom de ma nation, de ma famille et de moi-même déjà vous remercier parce que parfois, quand on ne sait pas comment faire dans les situations que nous traversons, on sent qu'on est porté quelque part dans la prière. Et je puis vous assurer que vos prières font toujours la différence. Et merci de prier pour nous et merci de continuer à prier. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas encore sortis de cette situation. Et je viens juste de lire 2 versets. Et dans le premier verset, dans Jean 12, 24, c'est Jésus qui était en train de parler. Et il disait, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il porte beaucoup de fruits. Si le grain de blé qui est tombé en terre, s'il n'est pas mort, il ne va pas porter de fruits. Mais s'il meurt, il va porter du fruit. Et parfois, on ne réfléchit pas à ce qui nous arrive, à ce qu'on vit. Et une fois, il y avait des sœurs, des portes ouvertes, qui font beaucoup de travail pour l'église persécutée, qui était à Bangui et qui m'intervivait. Et c'est là où je me suis rendu compte que ce que je faisais ou ce que le Seigneur m'a amené à faire, j'avais été préparé depuis longtemps pour ça, sans me rendre compte. Moi, j'ai connu le Seigneur quand j'étais en Chine, j'étais parti pour mes études en ingénierat, et c'est là-bas que j'ai rencontré le Seigneur. Et c'est là-bas que j'ai commencé à le servir, c'est là-bas que j'ai reçu mon appel, et que j'ai laissé mes ambitions de côté pour commencer à parcourir le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Et moi, ce que je connaissais du christianisme, c'était la souffrance. Parce qu'en Chine, c'était la persécution. Quand tu crois, il faut t'attendre à tout. Tu peux être privé de tout, tu peux aller en prison, tu peux être torturé, on peut te tuer. Et moi, c'est ça, l'Église, pour moi, c'était ça. Et j'ai pu faire ce que je pouvais faire par la grâce de Dieu, comment aider cette Église persécutée. Et quand j'étais arrivé en Afrique, j'ai vu une autre Église. Toute cette liberté, cette foi bon marché, je peux dire, et je ne comprenais pas. Et donc j'ai compris, avec les situations que nous avons connues, pourquoi Dieu m'avait amené en Chine pour le connaître. Et pourquoi j'étais né dans une église qui souffrait. Et c'est ce qui m'avait déjà préparé pour que, quand la souffrance est venue sur l'église en Centrafrique, je pouvais être utile pour aider mes frères, pour consoler l'église et pour faire ce que, par la grâce de Dieu, je suis en train de faire. Et la seconde chose, parce que pendant les moments difficiles, j'avais été choisi pour être le coordonnateur du comité de crise des évangéliques. Là où les chrétiens étaient persécutés, là où on était en train de tuer les chrétiens, il fallait y aller. Et il fallait trouver les paroles justes pour consoler des gens qui n'ont pas encore fait leur deuil, pour parler à des personnes qui étaient en train de souffrir parce que leur mort était là et que les ennemis étaient en face, ou les oppresseurs étaient là, et qu'est-ce qu'il fallait leur dire pour qu'ils puissent se calmer, qu'ils ne prennent pas les armes, qu'ils ne se revoltent pas. Et Dieu me donnait parfois les mots qu'il fallait. Mais là aussi, je me suis rendu compte qu'on avait vécu un drame dans notre famille. J'ai une nièce qui s'appelait Foxy et qui disait que son mari c'est Jésus. Voilà, c'est ce qu'elle disait. Et elle aimait le Seigneur et elle s'intéressait pas aux choses de ce monde. Et un jour, elle était à l'église un dimanche. Elle est revenue et elle était allée chercher la farine de manioc, parce que chez nous là-bas les gens mangent beaucoup les boules de manioc. Et donc elle était allée chercher la farine de manioc pour préparer et manger. Et quand elle était sortie, il y a un garçon qui a commencé par la provoquer. Il dit, toi, la femme de Jésus, tu vas voir aujourd'hui. Elle faisait pas cas du jeune homme. Et quand elle allait acheter cette farine, en retournant, le jeune homme a commencé par la brutaliser. Et il a fait tomber la farine, il a commencé par se bagarrer avec elle. Et la famille du jeune homme s'est ruée sur ma nièce. Et ils l'ont terriblement tabassée. Pour rien. Elle était évanouie. Les gens ont réussi à la transporter à la maison parce qu'elle restait avec ma maman, qui à cette époque elle n'était pas encore décédée. Et donc moi, je n'étais pas au courant. Mais 3 jours après, la situation s'était horriblement dégradée. Parce que quand on l'avait ramenée à la maison, on ne nous avait pas informé. Et ma mère m'a fait appel. Et quand je venais, c'était presque fini. On l'a dépêchée à l'hôpital. Et quand on est arrivé à l'hôpital, elle avait rendu l'âme. Et c'était difficile. Parce que on la connaît. Elle ne provoque pas. Mais elle a été tuée simplement parce que elle se disait être la femme de Jésus. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Je sais que si c'était à l'époque de nos grands-parents, c'est une guerre qui allait se déclencher entre les familles. Et on devait se venger. Mais je suis pasteur et mon cadet est aussi pasteur. Les gens nous connaissent. Alors, la famille qui avait commis cet acte avait peur. D'abord, ils sont allés rapidement à la police pour dire, voilà, on veut nous attaquer, ils veulent nous attaquer, ils veulent s'en prendre à nous. On n'avait aucune intention. Et j'ai dit à ma famille, on doit pardonner. Ce n'était pas facile. le jour où on a sorti le corps de ma nièce, on a fait la cérémonie, et voilà, devant tout le monde. Tout le monde était là. J'étais là, mon cadet aussi était là. Et nous avons déclaré publiquement, nous pardonnons cette famille qui nous a causé cette perte, ce drame. Nous remettons tout entre les mains de Dieu. Vous savez, c'est peut-être une lâcheté, une faiblesse, ou c'est peut-être idiot. Et peut-être ces choses que j'avais vécues, Dieu était en train de préparer mon cœur quelque part. Parce que quand Jésus dit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il demeure seul. Nous avons quelque chose de Dieu en nous. Mais ce quelque chose de Dieu qui est en nous ne pourra jamais se manifester, ne pourra jamais être utile à ceux qui nous entourent, ne pourra jamais affecter les autres s'il reste toujours en nous. Je lisais une fois les résultats d'une recherche archéologique en Palestine. Et on disait que dans la ville de Canaan, vous savez qu'elle avait été conquise par Josué et son armée, ça fait déjà plus de 1500 ans, que lorsqu'on avait fait les fouilles archéologiques, on a découvert un canari. Et que dans ce canari étaient soigneusement conservés des grains de blé. J'ai dit, waouh! Mais ça fait quand même plusieurs années. Ils ont découvert cela. Comment ça? Mais l'histoire ne finit pas là. Ils disent, ils ont fait une expérience, ils ont pris ces grains de blé qu'ils ont semés. Waouh! Ça a poussé. Wow. Pendant 1500 ans, presque au plus, ces grains étaient bien conservés. Je ne sais pas comment Dieu a pu faire cette chose, où la température était toujours normale. Ça n'a pas été affecté pendant presque 1500 ans. Et les grains étaient là, bien conservés. Mais le jour où on a mis sous terre, les grains étaient morts. Et quand les grains étaient morts, ils ont libéré la vie qui était en eux. En fait, dans le jargon, on parle du principe actif de vie qui se trouve dans le grain. Et donc, quand le grain meurt, il libère ce principe actif de vie. Et ça a poussé. Mais pendant plus de 1500 ans, ces grains étaient demeurés juste seuls des grains. Parce que bien protégés, bien conservés. Et j'ai dit, mais voilà, ça c'est l'image parfois de notre vie. Nous sommes bien protégés, nous conservons jalousement, nous cajolons cette vie de Christ qui est en nous. Et pour nous trouvons que c'est ça la meilleure chose à faire. Mais la Bible dit, mais si le grain ne meurt, il ne peut produire de fruits. Et c'est ce qui fait que parfois nous ne pouvons pas manifester cette vie de Christ parce que nous refusons de mourir. Je ne suis pas en train d'encourager au suicide, mais je parle de cette mort spirituelle que dans la Bible nous le décrit dans un autre jargon, la crucifixion. Et ce n'est pas toujours facile. Il est dit dans Matthieu 5, le verset 43 à 24, de prier, d'aimer ses ennemis. Nous voulons aimer ceux qui nous aiment, mais nous ne voulons pas aimer nos ennemis. Mais la Bible dit, aimez vos ennemis. Et ma chair n'accepte pas, ma chair n'est pas prête à aimer mon ennemi. Peut-être c'est de prier pour que le feu tombe sur lui, c'est de désirer qu'il fasse un accident ou que, je sais pas, sa maison soit court-circuit et que tout prenne feu. Parce que c'est mon ennemi. Mais la Bible dit non, je dois l'aimer. Et nous connaissons ce langage, le mot aimer utilisé, c'est le mot agapé. Cet amour qui ne vient que de Dieu, cet amour qui peut me pousser à donner ma vie pour mon prochain. Ce n'est pas juste un amour qui attend quelque chose en retour. Aimez vos ennemis. Et vous savez, quand la Bible parle, ce n'est pas juste une option. On ne choisit pas. On doit le faire. C'est une obligation. Mais parfois, c'est dur, nous luttons. Et il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Comment, Seigneur? Est-ce que vraiment quelqu'un qui me veut du mal, il a droit à ma bénédiction? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous persécutent. Ça c'est comme trop poussé, Seigneur. Tant que nous vivons dans une société qui est dite post-moderne, et ça, c'est caractéristique. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a l'influence de la pensée collective. Ça fait que je ne suis plus moi-même, mais je suis drainé par tout un courant. Et c'est ce que la majorité pense et décide. Et quelqu'un disait avec raison que la démocratie n'est rien d'autre que la dictature de la majorité. Et je crois que les grands perdants dans cette affaire en France, c'est les chrétiens. Parce que chaque jour, la superficie qu'occupe l'Église et la foi chrétienne se rétrécit. Nous sommes dans une société où tout est régi par des lois. Et parfois, quand on se rend compte, ces lois ne sont pas en nos faveurs. Elles délimitent tellement nos actions, au point où finalement ce ne serait plus la Bible qui sera le livre qui va nous guider, mais ce seraient les lois qui vont nous dicter ce que nous avons à faire. Et comme ça va à l'encontre de notre foi et que nous ne réagissons pas, eh bien, nous finirons tous par mourir. Les lois sont tellement antichrétiennes. Et c'est en train de nous asphyxier, mais on ne se rend pas compte. Je me rappelle quand j'étais encore au lycée, notre professeur de physique était en train de faire une expérience. Il avait amené une grenouille et il a d'abord dans un premier temps branché le récipient. Il a chauffé l'eau et quand il voulait mettre la grenouille dans l'eau, la grenouille a sauté parce que l'eau était chaude. Il ne pouvait pas accepter. Alors, il y a un autre récipient où l'eau était froide et il a mis la grenouille dans cette eau. Et lentement, il augmentait la température. Très lentement. Et la grenouille était toujours dans cette eau. Mais lentement et sûrement, la température augmentait jusqu'à ce que la grenouille était morte. Mais quelle était la différence? Dans un premier temps, l'eau était chaude. Et la température et la grenouille pouvait sauter. Mais l'expérience montrait que plus la température augmentait, la grenouille ne se rendait pas compte. Parce que peut-être que son corps s'accommodait. Et jusqu'au point où elle était étouffée, elle était morte. Et j'ai bien peur que parfois c'est ce qui nous arrive dans notre vie chrétienne. Petit à petit. Et parfois on se rend compte qu'on ne peut plus rien. Et dans cette société, avec ses lois, nous avons aussi nos droits. Et on voit, ça c'est mon droit. Et quand c'est mon droit, est-ce que j'ai le droit de pardonner? Est-ce que j'ai le droit d'aimer mes ennemis? Vous savez, c'est facile quand les gens viennent vers vous pour dire pardonne-moi. Et vous pouvez leur donner votre absolution. Mais nous sommes dans une société où les gens, le mot pardon n'existe pas. Oh, bon. Très vite, on dit excuse. Hein? Excuse-moi. Ça veut dire ne t'en fais pas. Ça, en fait, c'est arrivé, donc ne t'en fais pas. C'est pas grave. Et il n'attend pas ce que vous acceptez, ses excuses. Il s'est déjà auto-excusé. Et bon, voilà, il vous dit, excusez-moi. Voilà, il passe son chemin qui n'a rien à voir avec le pardon. Et où allons-nous? Et avec tout le mal qui nous frappe dans nos portes et dans nos maisons, est-ce que nous sommes prêts à pardonner? Ou est-ce que nous sommes prêts à accepter le pardon? Si on vient nous le demander. Mais c'est ce que nous dit la Bible. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Vous savez, il y a comme 4 catégories de courants. C'est une leçon que j'ai apprise il n'y a pas très longtemps, quand j'ai changé avec l'archevêque de Bangui. Et le premier courant d'esprit, c'est vraiment l'esprit diabolique. C'est que je rends le mal pour le bien. Il y a des gens comme ça. Vous leur faites du bien, ils vous rendent le mal. Et ça, c'est diabolique. Mais il y a aussi l'esprit animal. C'est de rendre le mal pour le mal. Il m'a fait le mal, je lui rends le mal. Mais il y a un troisième courant d'esprit, ça c'est l'esprit humain. Rendre le bien pour le bien. Et voilà, ça nous caractérise tous. Hein. Il m'a fait du bien, je lui fais du bien. Il me salue, je le salue. Il me rend visite, je lui rends visite. Mais il y a une autre étape, c'est l'esprit divin. C'est rendre le bien pour le mal. Il m'a fait du mal, mais je lui fais du bien. Et ça, il faudrait une force qui vient d'en haut. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas, il faut une capacité divine, surnaturelle. Quelque chose qui vient de Dieu. Parce qu'il n'est pas question de serment, il n'est pas question juste de discuter d'une certaine approche, mais il est question d'incarner la chose. Et comme Jésus nous dit, si nous ne mourons pas, nous ne pouvons pas libérer cette vie de Dieu en nous qui est capable de faire cette chose. Parce que ce n'est pas par nous-mêmes. Moi aussi, c'est difficile pour moi de pouvoir aimer mon ennemi, mais quand je laisse Christ vivre en moi, il aime facilement. Quand je laisse Jésus se manifester en moi, il va faire des choses qui dépassent mon entendement. Moi aussi, j'ai été victime, j'ai vu mes parents qui ont été tués, des membres de mon église qui ont été décapités, et parfois atrocement, au point où même je refusais parfois d'aller voir les cadavres ou d'aller assister aux funérailles, parce que tellement j'ai mal quand j'ai vu le traitement qu'ils subissaient. Et lorsque Dieu met aux prises avec des situations où, humainement parlant, je ne peux pas, je vois combien Dieu il le fait au travers de ma vie. Une fois, j'étais en train d'organiser une rencontre. Je mettais ensemble pasteur, prêtre et imam pour qu'on discute et qu'on aille dans les communautés pour encourager nos fidèles à ne pas céder à cette guerre religieuse, à ne pas se rentrer dedans. Et un imam et un pasteur étaient arrivés au bord d'un véhicule, et ce véhicule était conduit par un criminel, par l'un des assaillants qui était un colonel de ce groupe de rebelles. Et il était là dans son véhicule, nous on était à l'intérieur de l'église en train de préparer la réunion. Et il y a une dame qui l'a vu, elle dit, mais tiens, mais c'est toi qui as tué mon mari. Et il y a un jeune homme qui a dit, mais c'est toi qui as tué mon grand frère. Il était dans un quartier hostile. Et tout de suite, la foule s'est ruée sur lui. Ils ont commencé à casser son véhicule. Et nous, quand on était informés, on est sortis rapidement. Mais la foule était déjà sur lui. Il voulait finir avec lui. Mais comment je pouvais accepter qu'on tue un être humain devant moi? Même si c'est un criminel. Même si je sais qu'ils ont fait du mal à mes parents, à mes membres, à mes compatriotes. Je ne pouvais pas accepter. Et je suis venu pour tomber sur lui, mais je prenais des coups. Il y a d'autres pasteurs qui m'ont vu, ils s'ont encouragés, ils sont venus pour me secourir. On a tout fait pour l'arracher dans leurs mains. On a lutté pour le faire rentrer dans l'église. Ils ont mis le feu à son véhicule. Mais au moins, on lui a sauvé la vie. Mais c'était un criminel. Est-ce qu'il fallait que nous acceptions d'exposer nos vies pour lui? Ça valait-il la peine? Oui. Dieu a dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Que ferait Jésus à ma place? Il aurait exactement fait ce que j'ai fait. Vous savez, notre chair n'aime pas cela. C'est pour cela que Jésus dit, nous devons mourir. Et je pense que c'est volontaire, cette mort. Parce que Dieu ne viendra pas nous forcer contre notre gré. C'est vrai, on peut dire que ça dépend de quelle alliance chacun a fait avec Dieu. Mais je suis libre de dire, Seigneur, je veux. Ou je peux dire aussi, je ne veux pas. Mais le mieux, c'est de dire, Seigneur, je veux. Tu sais, humainement, c'est pas bon. Je ne sais pas comment arriver, mais je me laisse entre tes mains. Et par sa grâce, par son miracle, il fera de sorte que nous commençons par manifester dans notre société, aux yeux de ceux qui nous observent, une vie qui dépasse la compréhension. Et ça pourra aussi être pour nous source de témoignage. Est-ce que les gens nous observent? Et je crois que les temps que la France est en train de traverser, c'est des temps forts. Mais c'est des temps aussi où les chrétiens doivent se démarquer. Quand tout le monde va parler de vengeance, quand tout le monde va parler de haine et de rejet, quel sera le langage de l'Église? Et quand je parle d'Église, moi je ne vois pas les quatre murs de ce bâtiment. L'Église c'est vous, l'Église c'est moi. C'est quoi notre témoignage, notre réaction dans la société quand nous sommes au milieu de la foule? Qui, c'est légitime quand on vit ce qu'on est en train de vivre, de pouvoir peut-être dire des choses, de réagir. Mais c'est quoi le témoignage chrétien? Le Christ dit, il faut mourir. Je veux mourir pour laisser la vie de Christ se manifester. Je veux mourir pour que je porte du fruit et qu'il témoigne de Dieu. Et je pense que l'Église en France n'a pas de choix pour un témoignage. Et justement, le deuxième passage que nous avons lu, c'est Jésus qui encourageait, qui disait ici, nous voulons venir après lui, il faudrait que nous portions notre croix. Vous savez, un jour, j'ai dit, en fait, c'était le dimanche passé, j'étais entouré quand je visitais mon église à Orléans. J'ai dit aux gens, c'est comme si je sortais du Sanhédrin. Le conseil de l'église qui était là, et tout le monde qui me bombardait par rapport à ce que je faisais, que ce n'était pas normal, il ne fallait pas être avec les autres. Je suis sorti de ce lieu, je me disais, mais je sors d'où là, Seigneur? Tu vois, ça fait des années où moi, je ne connais plus ça. Tout ce que je sais, c'est de travailler à la réconciliation, c'est sur le plan social, de comment amener les gens à se pardonner, de ne pas faire de la religion un instrument de division, pas une arme pour faire du mal à son prochain, mais voilà. Et je leur ai dit, vous savez, Jésus était mort à Gethsémané, il n'était pas mort à Golgotha. Et il dit, mais peut-être vous pouvez penser que c'est de l'hérésie. Parce que nous savons tous que Christ a été crucifié à Golgotha et c'est là où il a rendu son âme à son Père. Mais s'il n'était pas mort à Gethsémané, il ne serait pas à Golgotha. Vous lisez dans Luc le chapitre 22 et la Bible nous dit tout le combat qu'il menait, les versets 43 à 44. Vous savez qu'il a prié et qu'il a dit, Père, moi j'aime pas boire cette coupe. Je veux pas. Pas trois fois il a fait cette prière. Il était confronté à l'obéissance à la volonté du Père ou à laisser sa chair se révolter. Père, je veux pas. Moi je suis pas prêt d'accepter de boire cette coupe. Mais si telle est ta volonté. Et je crois que c'était la première fois qu'on voit Jésus dans ce genre de combat. Et dans Luc 22, 43, 44, on dit qu'il était en agonie. Il y avait cette lutte intense au point où Dieu a dépêché même un ange pour le soutenir. Et il était tellement en agonie, il priait tellement que sa sueur, la Bible dit, s'est transformée en grumeaux de sang. Je ne sais pas si vous voyez cette image. Priez pour se soumettre à la volonté. Et c'est l'auteur des Épîtres aux Hébreux qui nous a plus explicité. Parce que quand vous lisez Hébreux 5, le verset 7, l'auteur là-bas dit que c'était avec des grands cris et des larmes qu'il priait. Imaginez Jésus confronté dans sa chair. Cette obéissance ultime. Qui pleurait, qui criait, Père, je ne veux pas. Qui luttait. Mais c'est toujours dans cette épître aux Hébreux, chapitre 5, le verset 8, qui dit qu'il devait obéir l'obéissance. Il devait apprendre l'obéissance. Il a appris en tant que fils l'obéissance. Malheureusement, aujourd'hui, vous savez, dans nos milieux, c'est plus la connaissance que nous cherchons, ce n'est pas l'obéissance. Nous préférons manger à l'arbre de la connaissance et non à l'arbre de la vie. Ce n'est pas l'obéissance qui nous caractérise aujourd'hui. C'est vrai, c'est normal, nous sommes à une époque où il y a tellement d'informations et la Bible même dit que dans les derniers jours, la connaissance augmentera. Mais il a appris en tant que fils l'obéissance et nous devons aussi apprendre l'obéissance à ta parole, à ta volonté, à ce que tu veux de moi. Et Dieu a aidé Christ. Il a dépêché un ange pour l'aider. Il nous connaît dans nos faiblesses, dans nos limitations. Et il va aussi nous aider, si tel est le désir, notre désir. Il dit, c'est chaque jour que nous devons porter notre croix. Et moi, j'ai eu une longue histoire avec la croix. La première fois que j'étais confronté avec l'histoire de la croix, c'est quand j'étais dans mes études. Je faisais mes études et puis, voilà, je venais à peine de recevoir le Seigneur. Et voilà, tout comme Paul, qui a reçu la visite d'Ananias avec la carte de visite de Jésus, où il était marqué dessus, voilà ce que tu vas souffrir à cause de mon nom. Et je ne sais pas si c'est une parole d'encouragement au lendemain d'une conversion. Et voilà, je revenais du restaurant à midi et je fais un détour pour aller regarder si je n'avais pas un courrier. Et je trouve une lettre qui m'était envoyée des États-Unis. J'ouvre et je lis et je vois dedans, il y a un stylo. Et j'ai dit, mais formidable ça. Quel joli cadeau qui vient du pays de l'oncle Sam. C'est tout ce que Dieu trouve de bon à m'envoyer. Et je lisais, c'était surtout l'introduction, ce stylo. C'est la sœur Karen qui a appris la langue en Chine et qui était rentrée. Qui disait, voilà, on était au culte et à la fin du culte, il y a un frère qui s'est approché de moi pour dire, écoute, j'ai ce stylo, mais je sens dans mon cœur que Dieu veut l'envoyer à quelqu'un en Chine. Et toi, tu reviens de la Chine. Moi, j'ai pas été en Chine. Je ne connais personne. Mais est-ce que tu veux bien envoyer ce stylo à quelqu'un en Chine? Et j'ai pensé à toi, Anatole. C'est comme ça que je t'envoie ce stylo. Et ça me faisait rire. Et après, il y a quelque chose qui m'a dit, mais considère ce stylo. Et puis quand je prends, je regarde. Et je vois, il est écrit sur la manche cross. Et nous savons tous que le mot cross, en anglais, qui veut dire la croix. Et c'est là où Dieu a commencé à me parler sur mon appel et sur mon ministère. Et donc ça, c'était très tôt. Et c'est vrai que toutes les années qui vont suivre, je ne veux pas trop m'écarter, pas volontairement, mais c'est comme s'il me conduisait toujours sur le chemin de la croix. Ça a toujours été difficile pour moi. Et il y a quelques mois, j'étais en Éthiopie, c'était le mois de mars. J'avais même écrit un article que j'ai envoyé à ceux qui prient pour moi, Dieu et moi, pour parler un peu de cette chose. Et j'étais à cette consultation des leaders africains, à Addis Abeba, et voilà, il y a un couple qui vient de la Nouvelle-Zélande, il s'occupe de l'aide aux églises martyrs, c'est eux le directeur. Et ils viennent, ils me voient, ils disent, voilà, il y a un frère dans notre église, c'était un juif rescapé de la Shoah, qui nous a remis une croix et qui nous a dit, venez à cette consultation et remettez à quelqu'un qui vient d'un pays où l'église a souffert. Est-ce que tu voudrais bien qu'on te donne cette croix? Je dis, moi? Mais je n'étais pas quand même le seul qui venait d'un pays où l'église a souffert. Il y avait des gens du Nigeria et autres. Mais pourquoi moi, Seigneur? Je croyais déjà avoir fini avec cette histoire de la croix. Mais c'est comme si elle me poursuit partout. Et j'ai fini par accepter. Et donc, je regardais cette croix. Ça me faisait rappeler ce que j'ai appris de ma chambre. Et ils m'ont donné la croix. J'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Encore la croix. Et il dit, oui, la croix, ce n'était pas seulement pour ton église, mais la croix, c'est aussi pour toi. Je disais, mais je pensais que, Seigneur, c'est fini, là. Tu es encore de m'amener où? Et j'ai ramené la croix. Il y a une semaine, pas plus, plutôt en gros 2 semaines, j'étais dans les montagnes de Suisse, à Loëche-les-Bains, pour visiter une amie missionnaire. Et avant que je ne quitte, elle dit, j'ai un cadeau à te faire. Et elle dit, c'est formidable. Et elle me remet une croix galloise. Et je dis, mais pourquoi tu me donnes cette croix? Est-ce que parce que tu as lu mon histoire, mon article sur Dieu et moi? Elle dit non. C'est beau, j'ai juste eu à cœur de te donner. Et ce matin, je voyais, je ne sais même pas pourquoi je me promène avec cette croix. Je l'ai retrouvée dans ma valise tout à l'heure et j'ai dit, j'ai avec moi cette croix galloise. Et voilà, Jésus dit, si nous sommes ses disciples, nous devons chaque jour nous charger de notre croix. Il dit chaque jour. On avait rencontré un chrétien chinois à Hong Kong qui avait lui son petit crucifix au cou et qui nous disait, vous savez, Christ nous a dit de porter notre croix et voilà, j'ai ma croix à mon cou. Il fallait lui faire comprendre que ce n'était pas cela, cette croix. Mais vous savez, la croix, ça peut être des enfants difficiles, la croix, ça peut être une épouse querelleuse, ça peut être un leader insupportable, un collègue qui nous fatigue, peut-être des voisins qui sont insatisfaits, toutes sortes de choses qui n'arrangent pas notre chair. Mais il dit, chaque jour, nous devons l'embrasser, aimer cette croix et la porter. Et j'ai vu que quand Jésus donne les conditions d'être ses disciples, la croix fait partie de l'une de ces conditions. Et c'est ça pour moi qui m'étonne. L'une des conditions dont il dit dans Jean 8, 31, c'est de demeurer dans sa parole. Il dit, vous demeurez dans ma parole et là vous serez véritablement mes disciples. Et la deuxième condition, c'est dans Jean 13, 35, aimez-vous les uns les autres et on saura que vous êtes vraiment mes disciples. Et la troisième condition, c'est Jean 15, 8, il faut porter du fruit. Et à cela, les gens sauront que vous êtes mes disciples. Maintenant, quand vous lisez Luc 14, 27, il dit, vous devez vous charger de votre croix. C'est à cela que les gens sauront que vous êtes mes disciples. Ça veut dire que ce n'est pas une option pour nous si nous voulons être disciples de Jésus. Nous voulons le ressembler, nous voulons le servir. Et je pense que peut-être qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à ce carrefour, c'est de faire un choix. Soit de vivre notre vie comme aussi facile, aussi intéressante, mais ou de dire, nous voulons maintenant mener cette vie de disciples de Jésus. Et nous devons chaque jour nous charger de notre croix. Je vais finir par cette petite histoire où, comme nous, vous savez, on n'aime pas la croix. Et il y avait justement ce jeune homme qui, dans son rêve, reprochait à Jésus qu'il avait promis de nous donner une croix que nous pouvons supporter, mais il se rend compte que la croix que Jésus lui avait donnée était une croix qui était peut-être très lourde. Il ne comprenait pas pourquoi est-ce que le Seigneur lui faisait passer par un supplice. Jésus a dit, mais si tu estimes que la croix que je t'ai donnée est très lourde, voilà, il y a un tas de croix là-bas, tu vas te décharger de ta croix et tu vas choisir celle qui te conviendrait. Et il dit, bien dit. Et donc il est allé jeter sa croix dans le tas et il a commencé à fouiller. Et il trouve une croix qu'il met sur son épaule et il estime que celle-là est très lourde. Il dit, non Jésus, celle-là je ne peux pas porter. Et Jésus dit, mais continue à chercher. Donc il dépose celle-là et il fouille, il trouve une autre. Il met et dit, oh mais celle-là elle est trop légère. Jésus dit, continue à chercher. Et donc, il dépose celle-là, et il fouille, et il trouve une autre, il met sur son épaule. Et il dit, oh, je crois que celle-là, elle me convient. Seigneur, tu vois, celle-là, elle me convient. Et Jésus dit, mais regarde bien, c'est cette croix que je t'avais donnée que tu avais jetée. C'est vrai que parfois nous croyons que nos défis sont difficiles. Mais le Seigneur sait ce que nous pouvons supporter. Et nous allons, si vous voulez bien, on peut prier. Nous voulons encore te remercier ce matin pour l'opportunité d'avoir partagé ta parole. Et tu sais pourquoi tu as préparé cette parole pour nous. On pouvait se trouver aussi en vacances comme les autres. On pouvait être absent à cause d'autres occupations, mais tu nous as disposé d'être là. Tu ne t'adresses pas aux absents, mais à nous. Et c'est maintenant à nous, Seigneur, de faire un choix. Je vais prier pour mon frère et pour ma sœur, comme pour moi-même, Est-ce que les défis auxquels nous faisons face, parfois imprévisibles, mais c'est difficile. Mais nous voulons te remercier, parce que quand nous voyons dans ta parole, Jésus, toi-même tu étais soutenu par un ange que Dieu a dépêché auprès de toi, au fort de ta lutte. Et dans nos luttes aussi, soutiens-nous. Saint-Esprit, c'est toi qui nous donnes la capacité qui vient du ciel. Et donne-nous d'avoir le bon témoignage. Et que tu nous donnes de poser des actions que toi-même tu aurais posées si tu te trouvais devant ces situations. Donne à ton Église, Seigneur, un bon témoignage pendant ces moments difficiles. Tu es celui qui écoute les prières et écoute ma voix. Merci. Au nom de Jésus. Amen.